Merci Serge et merci Alain. Nous arrivons à la fin du colloque et d'une certaine façon, tu en as donné les conclusions, Serge. Mais je voudrais tout de même poser deux, trois questions pour rassembler un petit peu les deux exposés. Parce que dans l'exposé d'Alain, Alain, tu as parlé d'une défiance chez certains médecins. Tu as parlé aussi de la difficulté de bien appréhender les risques. C'est-à-dire que le fait qu'il existe des risques n'est pas un obstacle à l'action, mais il faut mesurer les risques. C'est-à-dire que dans le domaine scientifique que tu as abordé, celui des vaccins, il y a effectivement des éléments d'indétermination. Il y a des éléments qu'on appelle le risque, il y a des questions de probabilité, il y a aussi des appréciations, certes très minoritaires, mais de quelques médecins. Et donc, comment faire évoluer tout de même le pourcentage non négligeable de la population qui reste presque de 20%, qui est 25%, qui est dans un état, disons, de scepticisme. De la même façon, je te pose la même question, Serge. Tu as magnifiquement montré comment s'étaient peu à peu construites les grandes lois de la physique. Mais au moment où tu as parlé du réchauffement climatique, ça n'était pas simplement les grandes lois de la physique, c'est la façon dont, dans un phénomène physique, s'agglomèrent justement différentes théories. Et c'est dans cette façon de composer les choses. Alors, c'est deux choses très différentes, que quelqu'un dise la Terre est plate, où il n'y a pas la gravité. Heureusement, ça reste quand même minoritaire, même s'il y a des gens qui continuent à le défendre. 8%, je ne connaissais pas le chiffre, mais il est moins fort, en tout cas, que ceux qui vont douter du réchauffement climatique, par exemple. Donc, ma question à tous les deux est la suivante. C'est qu'il y a des acquis incontestables qui aboutissent à l'établissement de lois scientifiques telles que tu les as dit. Il y a des acquis incontestables dans un domaine de la clinique, donc qui n'obéit pas aux lois de la même façon, mais qui sont tout de même des données établies statistiquement, en tout cas. Hein. Et donc, comment améliorer, comment faire reculer tout de même les éléments rémanents de défiance ? Comment faire reculer les formes rémanentes de scepticisme, y compris même si elles sont très minoritaires, dans le corps médical ? Parce qu'effectivement, quand on dit ben les vaccins, il y a un pour, un contre, alors un médecin pour, un médecin contre, en France, il y a 10 médecins contre et 100 000 médecins pour. Donc, effectivement, le rapport pour-contre n'a pas tout à fait la même nature. Mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas aussi intégrer dans l'éducation scientifique le fait que la science, et tu l'as dit à propos des grandes lois, Serge, mais elle est justement un processus qui avance toujours. La science ne campe pas sur des données, et la science expose aussi ses incertitudes et ses indéterminations. Le scientifique, ça n'est pas simplement « Monsieur, je sais tout ». Au contraire, le scientifique, c'est quelqu'un qui a toujours l'idée qu'on peut analyser plus profondément encore un phénomène. Donc, en même temps que l'ode à l'éducation que tu fais, est-ce qu'il ne faut pas inclure dans cette ode à l'éducation une éducation scientifique qui soit justement aussi une éducation dans laquelle on apprend, en quelque sorte, et on communique, même dans la vie quotidienne du chercheur, parce que la vie quotidienne du chercheur, elle est faite de ces doutes, de ces critiques que l'on surmonte et qui sont un moteur, si je puis dire, qui sont un moteur pour le travail, un moteur pour la science, et non pas un ressort pour le scepticisme et pour le recul de la connaissance. Et c'est ça qui me frappe, c'est qu'au fond, on avait abordé ça tout à l'heure, et ce matin un petit peu aussi, sur la place de la critique et du soupçon. Mais le scientifique, il n'est pas celui qui rejette le soupçon et la critique, il est celui qui sait en faire un bon usage, et un usage constructif, et pas simplement un usage qui conduit au relativisme, quoi. Et cela, on a parfois l'impression qu'un certain nombre de scientifiques, qui ne sont pas peut-être toujours parmi les meilleurs, donnent le sentiment d'être justement assis confortablement sur leur fauteuil du savoir en fumant le cigare, alors que la vie du scientifique n'est pas du tout cela. Elle est l'inquiétude, elle est aussi l'acceptation du fait qui est perturbant. Et tu as bien expliqué dans les lois de la physique comment l'acceptation des faits perturbants avait été le déséquilibre même que ressentait un Einstein lui-même, était des moteurs de la science. Alors donc, est-ce que enseigner la science et donc essayer de faire reculer la post-vérité ou les fake news, ce n'est pas aussi communiquer un peu cette passion scientifique qui est au-delà de la simple connaissance passive, si je puis dire. Hein, dites un mot l'un et l'autre sur ça. Alain, commence.
Un mot. Oui, évidemment, sur l'éducation, on ne peut dire que oui, encore que je peux me permettre de faire une remarque. J'ai trouvé magnifique ton exposé, mais je n'arrive pas à avoir l'optimisme total de penser que l'éducation résout ces questions. Et je n'arrive pas à me sortir de l'idée qui est que l'Allemagne nazie, enfin pré-nazie, celle qui a donné naissance au nazisme, était à l'époque un des pays les mieux éduqués du monde. Donc malheureusement, l'éducation est évidemment incontournable, mais n'est pas toute la solution. Pardon, peut-être je peux te laisser répondre, parce que du coup, je suis sorti du sujet. Mais
non, bien sûr.
Bien sûr, l'éducation n'est pas la seule réponse, mais elle est essentielle, elle est nécessaire.
Évidemment.
Maintenant, pour revenir au doute, je pense qu'effectivement, le doute est un aspect. Le doute, pas le soupçon. Parce que
quand
on parle de soupçon, on fait allusion tout de suite à l'existence d'un complot possible. Le doute est essentiel en science. Et par exemple, pour revenir à la question du climat, ce que j'ai voulu dire, c'est qu'il y a des choses qui sont indiscutables. C'est que la température, indiscutable avec une probabilité, disons, de 95% ou plus, que la température de la Terre augmente et qu'il y a une cause anthropique à cela. Maintenant, ce qui est le doute et ce qu'on ne sait pas, c'est quelles vont être les conséquences exactes. On a différents modèles, il y a différentes projections possibles qui disent qu'on va dans une direction qui est dangereuse. Et donc le fait qu'on ne sache pas exactement ce qui va se passer ne dispense pas de prendre des mesures dès maintenant parce qu'on sait dans quelle direction ça va. Donc, je pense que les scientifiques le savent et le disent et que quand les rapports sur le climat qui paraissent tous les 2 ou 3 ans sont extrêmement détaillés et disent ce qui est acquis et quelles sont les marges d'erreur et quelles sont les possibilités de développement dans l'avenir. C'est en fonction de ça que les décisions doivent être prises. Je pense que ceux qui sont les négationnistes du climat, eux, ne raisonnent pas du tout dans le même, suivant les mêmes méthodes et suivant les mêmes schémas et méconnaissent complètement ce qui fait l'essence même de la démarche scientifique, c'est-à-dire l'essence même de la connaissance de la vérité.
Un mot, je reviens à la question concernant la vaccination, mais au-delà de ce qui est de la démarche scientifique en médecine, qui s'appelle l'analyse bénéfice-risque, et qui s'applique à la vaccination comme n'importe quel sujet de la médecine. Le fait qu'une fraction du corps médical soit résistante ou réfractaire à cette analyse est un fait qui n'est pas forcément une énorme surprise, parce que d'abord, la médecine vient de loin par ce qui est de l'éducation scientifique. Il faut se rappeler ce qu'était la médecine, après tout, il y a seulement quelques dizaines d'années. Et que les médecins ou d'autres soignants sont des citoyens comme d'autres. Donc la réponse est évidemment l'éducation, à nouveau, même si je ne peux pas ignorer le fait que cela prendra un long temps. Mais on peut, de façon très pratique, améliorer la formation des médecins, encore une fois, initiale et tout au long de la vie. Il y a beaucoup à faire. Mais aussi, je crois beaucoup à l'exemple. Et je me repose sur votre exposé tout à l'heure magnifique sur le travail que vous faites auprès des collégiens et des lycéens en les impliquant directement avec une réflexion pour construire une émission de radiophonique. Je veux dire quelque chose d'assez banal, mais la vaccination à l'école, je pense que tu as été vacciné à l'école, j'ai été vacciné à l'école, j'adorais ça, après on avait une demi-journée de libre, pas uniquement. Mais c'est une façon la plus didactique possible, là cette fois-ci je dépasse les médecins, je suis au stade de l'ensemble des citoyens, pour comprendre, parce qu'en même temps qu'on vaccine, on peut parler de la vaccination aux enfants, et je pense que c'est la meilleure façon de convaincre et de rétablir une confiance en la vaccination. Mais tout ça prendra du temps. En plus, il y a une certaine résistance, en l'occurrence, des autorités scolaires. Donc, je voudrais juste terminer ma courte intervention par le fait qu'il y a une période intermédiaire et que cette fois-ci, je sors de la science, mais je me permets d'entrer dans le champ de la politique, en tous les cas, la politique en termes de santé publique. C'est qu'il y a une situation de menace et que parfois, je pense qu'il faut savoir aller au-delà de la conviction et de la confiance et de la persuasion pour recourir à l'obligation. Je pense que l'obligation peut être une action civique salutaire. Il y a un autre exemple qui n'est pas très scientifique, mais à mon avis, qui a montré son utilité, même s'il est toujours l'objet de débat, qui s'appelle la sécurité routière. Et pour moi, la vaccination est du même ordre que la sécurité routière. Sauf qu'elle a des bases scientifiques probablement un peu plus solides, encore que je pense que les données statistiques sur la sécurité routière sont tout ce qu'il y a de plus solide. Donc il y a aussi, au-delà de la nécessité permanente de l'éducation sous différentes formes que je viens de réévoquer, il peut y avoir la nécessité de l'action politique temporairement par l'obligation.
Merci. Il n'y a pas de conclusion à apporter à ce colloque, puisque la question est loin d'être bouclée, la question est devant nous. Donc continuons à travailler et n'oubliez pas de lire La vie des idées pour être au courant de tous les débats et de tous les livres qui paraissent sur le sujet.